BPM. Élections législatives 2022.
Bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales. Les candidats pour la 8e circonscription viennent répondre à nos questions. Nous accueillons ce matin Cyril Naute, candidat soutenu par le Rassemblement National. Cyril Naute, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 40 ans, vous avez été maire de Mantes-la-Ville de 2014 à 2020, conseiller régional d'Île-de-France de 2015 à 2021, et maintenant vous êtes conseiller municipal d'opposition à Mantes-la-Ville. Ça c'est pour le côté politique, le côté professionnel, vous êtes enseignant. Alors que pensez-vous, Cyril Naute, de la réélection d'Emmanuel Macron ?
Je prends acte de cette réélection, évidemment cela ne m'a pas fait plaisir, comme à beaucoup de Français. Je constate qu'il a été élu dans des circonstances assez exceptionnelles, puisqu'il y avait à la fois la guerre en Ukraine qui a empêché en très grande partie la campagne de se mener. D'ailleurs, le président sortant Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Il n'a pas présenté de projet ou de promesses en particulier, à part peut-être la retraite à 65 ans.
On va y revenir.
Et on sortait de surcroît d'une crise sanitaire qui a duré presque 2 ans. Donc je crois que la démocratie n'est pas sortie véritablement renforcée de cette longue séquence.
Vous êtes content du score de Marine Le Pen ? 41,45%?
Non, moi j'aurais préféré qu'elle fasse 50 plus une voix, évidemment. Mais effectivement, il y a une nette progression par rapport à 2017. Et j'espère que cette progression va être observée aussi aux élections législatives qui vont bientôt arriver.
Alors ces 41,45%, c'est quoi ? C'est de l'adhésion aux idées du Rassemblement National ou c'est de la contestation ? Parce que...
Alors je crois qu'on peut plus trop nous faire le coup du vote contestataire ou protestataire. Nous sommes un parti qui existe depuis le début des années 70, nous nous présentons à toutes les élections depuis donc une cinquantaine d'années. Les Français nous ont bien identifiés, connaissent notre programme, nos valeurs, nos propositions. Et ceux qui votent pour nous, c'est parce qu'ils veulent, voir nos idées arriver au pouvoir. Alors bien sûr, il y a eu aussi... peut-être un phénomène de rejet à l'endroit d'Emmanuel Macron, qu'il est vrai, au-delà de sa politique et de ses idées, sa personne elle-même peut susciter ce type d'hostilité. Effectivement, le mépris des Français, notamment à l'égard des plus fragiles ou des plus modestes, a pu susciter ce type de réaction d'hostilité.
Est-ce que vous pensez, comme vous vous présentez à ces élections législatives, que l'élection législative, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, c'est le troisième tour ?
Oui, c'est une sorte de troisième tour, même si c'est un autre scrutin. Il n'y a pas une élection d'ailleurs, il y en a 577, c'est-à-dire une dans chaque circonscription, et les rapports de force donc dans chacune de ces circonscriptions peuvent être différents, avec des candidats différents, certains très connus, d'autres moins, qui ont un passé local, d'enracinement ou autre... Ou des candidats totalement nouveaux, donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est très difficile d'estimer les résultats à l'avance, d'autant plus qu'il y a une autre grande inconnue, c'est la question de la participation. On note en général une baisse assez importante entre la participation présidentielle et 2 mois après les législatives. J'espère que ça ne sera pas le cas cette fois-là, car comme l'a dit Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, quand le peuple vote, le peuple gagne. Malheureusement, s'il ne vote pas, il perd.
Vous voulez, justement, pour cette élection, vous auriez aimé plus de proportionnel. Vous êtes pour le retour à la proportionnelle, pour les législatives.
Oui, pour avoir une assemblée nationale qui reflète le pays réel et toutes les forces politiques, d'ailleurs. Ce sera bénéfique pas seulement pour le Rassemblement national, mais pour d'autres forces politiques. Je note d'ailleurs qu'Emmanuel Macron lui-même avait proposé, alors peut-être pas la proportionnelle intégrale, mais en tout cas une dose de proportionnelle en 2017. Il n'en a rien fait, c'est une de ses nombreuses promesses qu'il n'a pas su ou pas pu tenir. Il a à nouveau promis cet engagement pour son second mandat, même si bien sûr ça ne pouvait pas s'appliquer pour les législatives de 2022. J'espère qu'il tiendra cette fois sa promesse pour avoir enfin une assemblée nationale qui représente un pouvoir législatif relativement fort, qui ne se contente pas d'obéir à un gouvernement ou un exécutif de manière générale.
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Que pourriez-vous faire, si vous êtes élu député, pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants du Mantois ?
Alors sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen avait plusieurs propositions, dont une quasiment à effet immédiat, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur notamment tous les carburants, le fuel, l'électricité, le gaz y compris, pour permettre à toutes les classes moyennes, les classes populaires qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour emmener l'enfant à l'école, etc., de pouvoir boucler plus facilement les fins de mois. Donc ça, c'est une solution que nous voulons d'ailleurs pérenne, hein, contrairement aux propositions d'Emmanuel Macron qui en général sont des promesses provisoires avec un chèque à destination de certains Français. Voilà. Nous, notre proposition s'adresse à tout le monde et elle est pérenne. Et nous proposons aussi aux entreprises qui le souhaiteraient de réévaluer donc les salaires les plus faibles de 10%. Et en échange, le gouvernement, donc qui serait le nôtre, exonérerait les cotisations patronales de ces entreprises. Donc évidemment, c'est une mesure qui dépend aussi de la bonne volonté des entreprises. Hein. Nous ne pouvons pas l'imposer, mais je pense que beaucoup de patrons voudront, dans ce contexte très particulier, aider leurs salariés les plus en difficulté de percevoir un salaire plus juste dans ce contexte d'inflation très difficile.
Que pensez-vous de la réforme des retraites à 65 ans ?
Bah écoutez, c'est quasiment la seule promesse qui a été exprimée par Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle. Et évidemment, Marine Le Pen et tous les membres du Rassemblement National sont contre. Si jamais Emmanuel Macron avait une majorité absolue ou relative et présentait ce projet, je puis vous assurer que tous les élus d'opposition Rassemblement National donc lutteront avec férocité, avec détermination contre ce projet qui est un véritable projet de casse sociale, encore une fois, des Français les plus fragiles.
Vous voulez garantir une retraite à 60 ans ?
Oui, pour les Français qui ont commencé avant 20 ans en tout cas, et à la condition bien sûr d'avoir 40 annuités.
Alors une question sur l'actualité locale, il y a un projet de maison d'arrêt à Magnanville. Êtes-vous pour ou contre la construction de cette prison dans la commune ?
Vu les conditions dans lesquelles ce projet a été présenté à Magnanville, évidemment nous sommes contre. En réalité, ce projet est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a eu absolument aucune concertation, il n'y a eu aucune études présentées ou d'autres projets qui auraient pu entrer dans la balance. Hein. Donc voilà, ça, on nous met devant le fait accompli. Quand je dis nous, c'est à la fois les élus locaux et aussi les populations directement concernées, hein, donc les Magnanvillois et les habitants de Soindre. Alors en l'occurrence, je m'exprime aussi en tant que conseiller municipal d'opposition à Mantes-la-Ville et ancien maire de Mantes-la-Ville. Évidemment, moi, je ne peux pas considérer que cette installation est une bonne chose. Nous sommes un territoire qui connaît beaucoup de difficultés, je parle du Mantois, hein, et je ne crois pas que l'installation d'une prison parviendra à redorer notre blason. Hein. Nous cumulons déjà un certain nombre de difficultés. Ce serait en grande partie nous achever de l'implanter à cet endroit, et en l'occurrence, on essaye de nous vendre la création d'emplois ou de je ne sais quoi. Enfin, tout cela est évidemment bidon. C'est pour nous faire passer la pilule, mais je crois que la pilule ne passera pas.
Alors, nous allons parler de votre programme en commençant par un thème phare, hein, de votre programme, le thème de l'immigration. Vous souhaitez stopper l'immigration de masse. Alors, elle a été stoppée pendant 2 ans, là. Pour le Covid, les frontières étaient fermées.
Oui, et c'est une très bonne chose. C'est un des rares, peut-être, effets bénéfiques de la crise sanitaire. C'est un engagement qui est assez ancien au Front National, hein, le contrôle des flux migratoires, pour plusieurs raisons, à la fois pour des raisons économiques et sociales, parce que cette immigration massive pèse sur notre pacte social, hein, et c'est aussi une manière de régler en très grande partie des problèmes de sécurité en France. Il n'y a bien sûr pas que des étrangers qui commettent des crimes et des délits sur le territoire national, mais on a pu observer, notamment à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, que malheureusement, beaucoup d'étrangers, parfois même des clandestins, parfois même des récidivistes, continuent à poser des problèmes de sécurité. Donc là, en l'occurrence, des étrangers clandestins ont agressé, pillé des touristes et des supporters qui étaient venus voir un match de football. Donc évidemment, ceci est totalement inacceptable. Hein, nous avons déjà assez à faire avec nos criminels nationaux. Il n'est nul besoin d'en accueillir de nouveaux de l'étranger. Et je note d'ailleurs que ce sujet pose réellement problème à la majorité, parce que quand on voit la réaction de Gérald Darmanin, qui a cherché à nier la réalité, la réalité que tout le monde a pu observer, puisque la finale de la Ligue des Champions, c'est un événement mondial, il y avait beaucoup de médias internationaux, on a pu voir des images, et effectivement, le sujet des faux billets ou des supporters sans billets a pu peut-être poser un problème aux organisateurs pour l'entrée dans le stade, mais au-delà de ce sujet-là, il y a eu effectivement un certain nombre d'échauffourées, d'agressions, de vols, il y a même eu des viols, me semble-t-il. Ces méfaits ont été commis par des étrangers et pas par des supporters de Liverpool.
Alors comment on fait pour limiter ? On fait comment ?
Eh bien écoutez, il y a plusieurs façons de faire. Il faut rétablir de véritables frontières avec de véritables contrôles.
On revient aux frontières de quand on était petit, avec des barrières, des...
J'entends souvent ce genre de réplique, mais vous savez, c'est un système qui a fonctionné effectivement pendant un certain temps, et on peut revenir parfois quand c'est nécessaire à des habitudes anciennes ou traditionnelles. Mais
c'est revenu avec l'Angleterre. Hein.
C'est la preuve. Alors, ils ont l'avantage d'être une île, donc c'est peut-être plus facile pour contrôler les flux migratoires. Mais en l'occurrence, au-delà de ce contrôle aux frontières, il faut tout simplement arrêter un certain nombre d'aides qui attirent les étrangers. Si beaucoup d'étrangers choisissent de venir en France, que ce soit d'Afrique ou d'Asie ou d'autres continents, c'est pas uniquement pour les beaux yeux des Français et des Françaises ou pour le climat, c'est aussi parce que ils sont sûrs d'obtenir un certain nombre d'aides, que ce soit à l'emploi, des aides sociales, des allocations familiales, des aides au logement, etc. Et nous, effectivement, dans notre programme, nous défendons la priorité nationale, notamment dans l'accès à l'emploi ou au logement. Donc à partir du moment où vous empêchez les gens d'accéder à ceux qu'ils sont venus chercher, bah, ils se détournent de ce pays, voilà, et nous souhaitons aussi bien sûr remettre la double peine hein, qui permettrait donc d'expulser les criminels et les étrangers dans leur pays d'origine.
Un peu plus compliqué ça, parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas les reprendre.
Oui, ça peut se comprendre qu'ils ne veulent pas reprendre leurs ressortissants criminels, mais en l'occurrence, on doit établir des relations diplomatiques sur ces sujets-là avec chaque pays concerné, et avec des négociations habiles, on doit pouvoir obtenir gain de cause. C'est dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Français.
Alors toujours dans votre programme, vous souhaitez également combattre l'islamisme. Comment on fait ?
Eh bien écoutez, on a beaucoup parlé du burkini ces dernières semaines. Donc
on n'est pas à Grenoble.
On n'est pas à Grenoble, mais ça peut sembler être un petit sujet, parce que c'est un bout de tissu, etc. Ça concerne peut-être que quelques cas en France, mais en l'occurrence, c'est un signe de refus d'adhésion à la République, à la France. Hein, c'est une provocation militante. Et donc, sur ce sujet-là, par exemple, nous proposerons dès notre élection, enfin tous les députés Rassemblement National proposeront un sujet de loi pour interdire ce burkini, mais au-delà de ça, bien sûr, nous devons fermer les mosquées radicales qui prêchent la haine ou je ne sais quelle doctrine insupportable, et nous devons rétablir la République notamment dans les services publics, mais y compris dans la rue. Hein, Marine Le Pen avait d'ailleurs proposé l'interdiction du port du voile dans la rue.
Alors on va passer à un autre sujet, celui de l'éducation. Alors vous êtes enseignant, on l'a dit tout à l'heure. Que peut-on améliorer dans l'éducation nationale ? Vaste sujet.
Beaucoup de choses, alors notamment la revalorisation des salaires, parce que quand on compare tous les pays de l'OCDE, tous les pays en Occident, les salaires des enseignants, on constate que ceux qui sont pratiqués en France sont largement inférieurs à nos voisins européens notamment. Et si on veut que les enseignants soient respectés, on doit aussi les respecter au niveau financier. On doit aussi restaurer leur autorité, et l'autorité de l'institution en général, c'est-à-dire tous les élèves perturbateurs qui commettent à l'intérieur des établissements des méfaits divers et variés, des incivilités ou autres, on doit les rappeler à l'ordre, les rappeler au règlement intérieur et au besoin,
c'est pas déjà le cas?
Les sanctionner. C'est très peu le cas. En réalité, il y a très peu d'exclusions définitives. Il y a des exclusions parfois provisoires, etc. Il y a très peu d'exclusions définitives parce qu'en l'occurrence, une exclusion définitive, ça aboutit en général tout simplement à un changement d'établissement et on ne fait que déplacer le problème. Mais pour les élèves les plus problématiques, les plus récalcitrants, voire les plus dangereux, hein, on peut imaginer aussi d'autres types de structures, pas nécessairement d'ailleurs relevant de l'éducation nationale. Mais voilà, l'enseignant doit être respecté dans sa classe, les chefs d'établissement également. Et je parlais là de l'enculance des élèves, mais ça doit être le cas aussi de la part des parents, parce qu'on observe aussi de plus en plus d'agressions verbales, voire physiques, à l'égard des enseignants, et bien sûr c'est inacceptable, et tous les parents ou les élèves qui commettraient ce genre de fait, ou qui seraient aussi très absentéistes, hein, parce que c'est parfois le cas, donc c'est un autre type de sujet, mais c'est aussi problématique, et tous les élèves qui ne viendraient jamais en cours, si d'aventure ils percevaient une bourse, bien évidemment, ou de certains types d'aide sociale, en relation avec l'éducation, il faudrait bien sûr les priver de cet argent public, puisqu'ils ne seraient pas destinés à leurs études.
Et en matière de programme?
On peut revoir aussi les programmes, hein, puisque c'est vrai qu'on observe beaucoup en éducation morale et civique, par exemple, parfois des doctrines qui, sous couvert de bons sentiments, en fait, propagent une propagande assez dangereuse, hein. Quand on parle de racisme, c'est uniquement du racisme à l'égard des gens d'origine africaine, par exemple. C'est pas la nomination, en l'occurrence, du nouveau ministre Pap Ndiaye qui contribuera à changer les choses dans le bon sens, puisque lui-même, en tant qu'enseignant-chercheur, s'est plusieurs fois exprimé publiquement sur le sujet, y compris dans ses travaux de recherche, hein, parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle La Condition Noire, notamment, où grosso modo, on peut dire que les gens qui ont une couleur de peau foncée souffrent et sont des victimes par essence quasiment, alors que les blancs sont forcément dominateurs et méchants. Donc voilà, il faut, si on veut conserver un pays qui connaît une certaine paix civile et une bonne relation entre les gens de diverses origines, eh bien il faut arrêter ce type de propagande qu'on qualifie maintenant de wokiste, hein, c'est le mot un peu à la mode. Mais je crois que dans un pays qui est de plus en plus multiculturel, multiconfessionnel, etc., multireligieux, il faut remettre la France et la République au centre de l'éducation nationale.
Dernier thème, il nous reste un tout petit peu plus de 2 minutes. On va aborder le thème de la santé et des services publics. Vous voulez stopper le démantèlement des services publics et également arrêter la fermeture de lits d'hôpitaux.
Oui, c'est vrai que la défense des services publics de manière générale me tient particulièrement à cœur. On a évoqué la police, on aurait pu évoquer aussi la justice, on vient d'évoquer l'éducation nationale et la santé aussi évidemment est un point important de notre système social et notre système de services publics.
On a vu les limites pendant le Covid.
On a surtout vu que dans cette crise sanitaire, et c'était peut-être le paradoxe, on a néanmoins continué à fermer des lits d'hôpitaux. Donc parmi les principales mesures que proposait de manière urgente Marine Le Pen, c'est notamment un moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux et aussi tout ce qui concernait les maternités, un plan d'urgence de 20 milliards pour enflouer les budgets notamment dans les hôpitaux publics. Je parlais tout à l'heure de la révalorisation des salaires des enseignants. On peut bien sûr, et on doit le faire bien sûr, à propos des infirmiers, des infirmières et des aides-soignants. Nous proposons également la réintégration immédiate de tous les soignants qui ont été exclus en raison de leur refus de se faire vacciner, avec bien sûr un remboursement de tous les salaires non perçus. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire pour remettre le système de santé en bon état de marche. Ce sera sans doute long et difficile, mais voilà quelques-unes des mesures que nous proposons immédiatement.
Ce sera le mot de la fin. Merci Cyril Naude d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie.
Cette interview sera rediffusée à midi et 18h et vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast puis élections législatives. À 8h30, nous interrogerons Benjamin Lucas, candidat Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Excellente journée à l'écoute de BPM.
BPM, élections législatives 2022.